Genève. Côté. Nature.
Bonsoir tout le monde et bienvenue dans l'émission hebdomadaire Genève Côté Nature. Nous sommes Virginia et Émilie de l'association de protection de la biodiversité Nariès, dont les bureaux sont à Schönbourg, et nous vous proposons aujourd'hui un nouveau côté passion.
Pour retrouver celui que nous allons rencontrer pour cet épisode, nous sommes allés au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève. Il s'appelle Laurent Valeton et est un des adjoints scientifiques du muséum.
Bonjour Laurent.
Bonjour.
Bonjour. Alors Laurent, là nous sommes à Genève au muséum, mais tu as fait tes études sur Lausanne. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu ton parcours et comment tu es arrivé au muséum finalement ?
Ben oui, effectivement. Donc j'ai fait mes études de biologie à Lausanne dans les années à la fin des années 80. Et puis après ça, j'ai fait pratiquement que de l'ornithologie de terrain avec mon comparse Lionel Maumari. Et c'est qu'en 2003 qu'il y a une place qui s'est libérée ici au muséum. Quelqu'un qui partait à la retraite. J'avais un petit peu travaillé avant déjà au muséum avec Manuel Rouedi qui m'avait engagé pour faire des petits boulots d'intégration de collection de micromammifères, des choses comme ça. Et puis une fois que le boulot était fini, j'ai vu que j'étais en plein milieu de la collection, j'ai pu découvrir la collection d'oiseaux. Il n'y a jamais eu d'ornithologue qui travaillait ici. Ils avaient besoin d'un ornithologue puisque le conservateur était vraiment plutôt branché mammifères, chauves-souris. Donc, à cette période, en 2003, donc quand j'étais engagé, a été engagée également ma collègue Alice Sibois qui est également ornithologue.
Mais c'est vrai que les oiseaux, ça fait partie intégrante de ta vie, c'est une grande passion. D'où est-ce qu'elle te vient, cette passion des oiseaux ?
Alors en fait, il y a deux catégories d'ornithologues, il y en a peut-être plus, mais enfin j'aime bien résumer ça comme ça. De ceux qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, façon Obélix, quoi, qui font ça depuis toujours, depuis qu'ils ont 4 ans, ils regardent les oiseaux, etc. Et moi j'y suis venu beaucoup plus tard. Moi c'est la rencontre avec un ornithologue, avec justement Lionel Maumari, on était à l'armée ensemble. Et puis voilà, à l'armée, on avait plus ou moins la même idée de l'armée, les deux, on s'embêtait là-bas, et puis on a assez vite sympathisé. Et moi, je me destinais à faire des études de biologie, lui, il avait déjà commencé ses études, donc il pouvait un peu m'expliquer comment ça se passait à Lausanne et tout. Et puis il m'a dit, écoute, voilà, moi je bague les oiseaux au col de Bretolaise, à l'époque le col de Jarmon n'existait pas encore, enfin on baguait pas les oiseaux là-bas, viens voir si ça t'intéresse. Puis moi, je connaissais rien aux oiseaux, donc j'avais, c'était en 89... Donc j'avais 18 ans quoi en fait. Et donc oui, c'est super, c'est génial, c'est comme ça que j'ai découvert les oiseaux par lui. Puis comme lui, c'est vraiment lui, il est dans la catégorie de ceux qui sont tombés dedans quand il était petit. Et ben on était tout le temps ensemble, puis on faisait plus que ça comme ça pendant des années. On a plus fait que ça quoi, ornithologie.
Et ça t'est resté pour ta carrière
et puis voilà, c'est comme ça que je me suis formé sur le tas sur la question des oiseaux, puisqu'à l'université de Lausanne, il y avait pas vraiment de cours vraiment sur l'ornithologie. C'est beaucoup plus large quoi. Je faisais des petits boulots pour la station ornithologique suisse, des recensements, du bagage aussi, d'hirondelles, etc. Donc et puis j'ai fait plein de petits boulots à côté. Je bossais chez Europcar, je bossais chez à la coque, fruits et légumes, voilà, fruits et légumes, etc. Okay. Enfin, bon, assurance maladie même.
Ouais. Alors justement, oui,
donc,
on parlait de Jaman.
Ouais, dans les années 90, donc il y a eu le projet du col de Jaman. Donc pour nos auditeurs, c'est une station de bagage des oiseaux et des chauves-souris qui se trouve au-dessus de Montreux. Tu as même fait partie du groupe qui a monté ce projet. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, nous dire d'où l'idée est venue, comment ça s'est passé au départ? Parce qu'il y avait un autre camp sur un autre col, ou comment ça s'est passé?
Alors effectivement, l'endroit du bagage en Suisse, c'est le col de Bretolet. Donc initialement, le col de Bretolet a été initié dans les années 50 par le musée de zoologie de Lausanne. Ça a été repris par la station ornithologique suisse. Au départ, c'était pour étudier les insectes notamment. Migration des syrphides. Et donc ensuite, ça a été repris par la station ornithologique suisse qui en a fait son lieu de bagage officiel où il paye un bagueur, etc. Et c'est comme ça que Lionel et mon autre collègue Jean Lehmann, qui lui était spécialisé dans les chauves-souris, se sont connus à Bretolet. Mais voilà, c'est la station ornithologique suisse, on fait pas exactement ce qu'on veut là-bas, etc. Donc un petit peu pour faire de la dissidence, on va dire, Jean Lehmann et Lionel Maumari, on s'est dit bon, nous on va faire notre camp à nous. Et Jean Lehmann participait à des séances de bagage avec Georges Hieron, donc un ornithologue de la Tour de Paix qui a beaucoup fait d'émulation auprès des jeunes, etc. Pendant de nombreuses années, et puis qui allait baguer avec Jean Lehmann des chauves-souris, des oiseaux au col de Jaman. Ils montaient avec leurs perches, ouais, à Vespa, et puis ils mettaient ça pendant quelques nuits. Et puis donc ils sont dit voilà, l'endroit est favorable. Moi j'étais un petit peu en retrait parce que j'avais pas par exemple le permis pour baguer ou choses comme ça.
Qu'est-ce qui rendait cet endroit favorable?
C'est la configuration, on va dire, c'est au bout d'une vallée qui fonctionne comme un goulet, un petit peu d'ailleurs comme au col de Bretolet. Il y a le Val d'Illier, sauf que là, c'est la vallée de l'Intiamont. Et donc, c'est orienté nord-est-sud-ouest, donc vraiment dans le sens de la migration automnale. Les oiseaux sont canalisés, parce qu'ils passent partout, les oiseaux. Hein, donc, il y en a partout, ils passent largement au-dessus, à gauche, à droite. Mais il y a quand même une petite concentration là. Il y a quelques commodités, il y a un parking, il y a un restaurant, il y a de l'eau courante, il y a de l'électricité parce qu'il y a, il y a une station de chlorage de l'eau à cet endroit. Donc il y a plein d'aspects tout à fait pratiques, utiles. Voilà. Et donc là, on a installé donc une première installation. Je veux pas dire rudimentaire, mais c'était quand même des perches de 6 mètres de haut que la station ornithologique avait prêté pour couvrir le col justement. Et puis en 94. On a mis la grosse installation, c'est les plus hautes perches d'Europe, c'est font 10 mètres de haut, avec un système qu'on a inventé, créé, d'ailleurs que la station ornithologique nous a copié, mais tout à fait avec notre accord.
Oui, hein, donc,
mais voilà, donc comme toi, avec des poulies, etc., donc pour pouvoir aller chercher les oiseaux qui se prennent tout en haut. Quoi. Donc,
excellent. Et d'accord. C'est vrai que vous accueillez maintenant différentes personnes, parce que vous faites des camps pour ceux qui sont intéressés, ou il y en a qui font leur service civil là-bas?
Alors, effectivement, depuis que grâce à l'armée, hein, ça me coûte de le dire, mais le service civil existe. Ceux qui ne veulent pas aller à l'armée font du service civil. Ils sont astreints à un certain nombre de mois où ils peuvent se rendre utiles dans différents lieux. Et le col de Jamant, on peut accueillir des civilistes quand on est reconnu d'utilité publique, etc.
Donc, c'est chouette.
Mais depuis 1994, et jusqu'à cette année, d'ailleurs, ils y sont en ce moment, hein, donc ils sont en train de baguer. Il n'y a pas eu d'interruption. On a toujours trouvé des bagueurs, des bénévoles. C'est tous des bénévoles.
C'est, hein,
donc c'est que des bénévoles.
Données, hein.
Oui, alors là, on est à 250 000 données d'oiseaux et plus de 4 000 données de chauves-souris.
Génial. Ah, wow.
Donc, et il faut qu'on publie ça.
ça, c'est un autre.
Ouais, bah, d'ailleurs, en parlant en publication, on sait que tu écris régulièrement des articles pour la revue Nos Oiseaux. Et notamment, tu répertories les observations inhabituelles des oiseaux en Suisse. Est-ce que c'est forcément toi qui fais les observations? Non, j'imagine qu'on te les rapporte.
Alors ça, c'est des rapports de la Commission de l'avifaune suisse. La Commission de l'avifaune suisse, personne ne sait que ça existe, c'est un groupe d'experts qui est chargé d'évaluer toutes les observations d'oiseaux rares ou des observations inhabituelles. Donc par exemple, si vous dites que vous avez vu un flamant rose dans votre jardin, on va dire, OK, alors, est-ce que ça vaut la peine? Non, mais est-ce que ça vaut la peine de reprendre cette information dans la littérature scientifique comme une donnée prouvée? Alors, si vous me dites oui, j'ai vu un flamant rose dans mon jardin, alors elle va pas pouvoir être prise dans la littérature scientifique si elle n'est pas validée par ce comité d'experts qui est la commission de l'avifaune suisse. Tous les pays ont des commissions de l'avifaune, des rarities committee, ils disent en anglais. Donc pour voir la validité. Si vous avez une photo, donc il y a des formulaires à remplir. Donc voilà, l'idéal c'est d'avoir une photo évidemment, d'écrire les circonstances, comment on l'a observé, ce que vous avez des jumelles, etc. Enfin, votre degré de connaissance, quel guide vous aviez, etc. Toute une série de questions. Et donc on peut faire partie de cette commission si on est intéressé. Puis si on a quelques connaissances dans les livres, parce qu'il faut surtout savoir identifier les oiseaux.
Bien sûr.
Donc j'ai fait ça pendant 10 ans, parce qu'on peut le faire que pendant 10 ans. Voilà. Et pendant cette période-là, chaque année, la commission produit un rapport et on se répartit les rapports dans les membres de la commission. On est une petite dizaine. Et donc c'est comme ça que j'ai été amené à produire un certain nombre de ces rapports pendant ces 10 ans où j'étais à la commission.
Okay. Et alors à côté de la Suisse, donc tu as aussi voyagé et tu as aussi... un peu comme nous, un amour pour les terres australes. Alors nous, c'est plus l'Afrique du Sud où on a étudié les vervettes. Mais c'est vrai que quand on était là-bas, on a aussi profité de moments pour voyager. Et on est passé par le Botswana et le delta d'Okavango. Et toi, tu as publié plusieurs articles sur des observations particulières de rapaces que tu as pu faire là-bas pendant un voyage, c'est ça?
Oui, tout à fait. J'étais en vacances. En fait, en voyage de noces, pour être précis.
Génial.
Donc, c'était pas très scientifique. Hein, mais comme je suis toujours équipé avec mon matériel photographique, et puis quand même, on n'y allait pas pour aller à la plage. Donc, bon, évidemment, pas au Botswana, puisqu'il n'y a pas la mer. Mais en général, il se trouve que lors de toutes mes dernières vacances, à chaque fois, j'ai eu la chance de tomber sur des trucs intéressants, un peu nouveaux. Alors, c'est rien d'extraordinaire. Par exemple, au Botswana, j'ai observé deux choses. C'était la première donnée de l'aigle criard. Donc, c'est un aigle qui normalement migre pas tellement au sud que ça. C'est quand même relativement mal connu. Enfin, c'est bien connu parce qu'il y en a beaucoup qui sont équipés avec des balises, donc on sait où ils vont. Mais ils vont rarement aussi loin que le Botswana. Et puis là, j'ai eu la chance d'en photographier un. Et donc voilà, j'ai publié une note là-dessus. Et puis sinon, une autre note. Alors, c'est toujours des rapaces. Je sais pas pourquoi. Et là, je suis tombé sur le busard grenouillard, en fait, qui est une espèce de busard des roseaux locales et qui étaient d'une forme sombre. Et donc, vous savez que chez les rapaces, il y a souvent des formes claires, des formes sombres. Enfin, ça facilite pas l'identification entre les jeunes, les adultes, les clairs, les sombres, etc. Enfin bon. Et là, je me suis un peu creusé la tête sur cet oiseau parce que j'arrivais pas à l'identifier. Et pour cause, il est dans aucun guide, il est jamais représenté sombre parce que cette forme est très rare. Et donc, en agrandissant la photo, en regardant, en analysant, et puis après, en allant regarder les spécimens dans les musées, il y avait des spécimens sombres. Donc, j'ai fait photographier, parce que je suis pas allé, c'était dans des musées aux États-Unis, en Angleterre, enfin, dans différents endroits.
Ils
m'ont envoyé les photos, ça va très bien, et puis comparer, puis c'était ça. Et donc, c'est la donnée la plus au sud, là aussi, de la forme sombre du busard grenouillard. Mais ça reste très anecdotique.
C'est génial.
Mais pour rester dans les rapaces, j'étais cet hiver, enfin donc un nouvel an passé, à Madagascar, puis en photographiant aussi un peu tout et n'importe quoi, je suis tombé sur un rapace qui n'avait jamais été vu à Madagascar.
C'est trop bien, c'est une prochaine publication.
Elle est en tout cas chez l'éditeur, c'est la première mention du busard pâle. C'est aussi un busard. C'est assez étonnant qu'il ait jamais été vu jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est quand même un oiseau qui normalement hiverne, en tout cas sur les côtes est de l'Afrique, pas loin du Madagascar. Ouais. Quoi. Il y a 400 kilomètres du détroit de Mozambique, donc c'est pas si loin. On se dit que sur des centaines d'années que les gens s'intéressent à ça, il y en aurait déjà eu un qui aurait été observé. Ben non, c'était le premier. Puis j'ai eu la chance d'être là à ce moment, puis de faire la photo.
Alors, nous allons faire une courte pause musicale. Laurent, est-ce que tu as pensé à une chanson à nous proposer aujourd'hui?
Oui, alors comme m'a suggéré d'avoir une chanson qui a son rapport avec la nature, etc., j'ai pensé à la chanson de Nino Ferrer qui s'appelle « La maison près de la fontaine ». Qui est un peu triste. Il faut savoir que Nino Ferrer, c'est quelqu'un qui s'est suicidé, donc c'était pas forcément quelqu'un d'extrêmement joyeux dans la vie, mais qui était un très grand musicien. Et il a fait vraiment là une chanson magnifique où il parle de la disparition de la biodiversité dans les villes, etc. C'est très émouvant, un peu élégiaque et très très beau.
La maison près de la fontaine, couverte de vignes vierges et de toiles d'araignées. Sentez la confiture et le désordre et l'obscurité. L'automne, l'enfance, l'éternité. Autour il y avait le silence, les guêpes et les nids des oiseaux. On allait à la pêche aux écrevisses avec monsieur. Se baigner tout noir avec les petites filles et les canards. A fait place à l'usine et au supermarché. Les arbres ont disparu, mais ça sent l'hydrogène sulfuré. L'essence, la guerre, la société. Pas si mal, et c'est normal, c'est le progrès.
Alors, c'était donc Nino Ferrer, la maison à côté de la fontaine. Je suis Émilie et voici la deuxième partie de l'émission Genève Côté Nature que je vous présente avec ma sœur Virginia. Aujourd'hui, nous sommes au Muséum de Genève pour rencontrer Laurent Valeton qui nous parle de sa passion des oiseaux. Alors, Laurent, tu es adjoint scientifique ici. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton travail au quotidien ?
Ouh là là, il y a beaucoup d'aspects, mais en gros, l'aspect principal, c'est la gestion de la collection d'oiseaux et de mammifères, en l'occurrence, parce que je suis dans un département où il y a les oiseaux et les mammifères. Moi, je m'occupe surtout des oiseaux, mais de temps en temps, il y a quand même des mammifères. Donc, c'est cette collection qui est la plus importante de Suisse, en fait. Il faut rappeler que le Muséum d'histoire naturelle de Genève, c'est le plus grand musée d'histoire naturelle de Suisse. La moitié de toutes les collections d'animaux, hein. On parle pas des plantes, ça c'est des jardins botaniques, mais tout ce qui est animaux, roches, minéraux et tout ça, et c'est à peu près 30 millions qui sont conservés en Suisse, il y en a 15 millions qui sont ici.
La moitié est ici.
Donc en fait, il faut s'occuper de la collection d'oiseaux et de mammifères, c'est à peu près 100 000 spécimens, donc il y a des nouveaux qui arrivent, identifier ce qui rentre, après on a les questions du public, donc les gens qui nous téléphonent, et voilà, j'ai vu ceci, j'ai vu cela, qui nous envoient des photos, qui nous amènent des animaux qu'il faut identifier. Après, il y a tous les contacts avec les journalistes, c'est des gens qui nous téléphonent, il y a ça qui est sorti, qui a été publié, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Si c'est des questions relatives aux oiseaux, c'est sur moi que ça retombe, si je puis dire. Et puis après, il y a l'organisation d'expositions, d'événements, d'animations aussi, qu'on fait beaucoup, donc pour tous âges. Donc,
un travail différent chaque jour, au moins.
Oui, c'est très.
Pas le temps de s'ennuyer.
Voilà. Et également, la publication de livres, donc des publications. Là, par exemple, on va sortir un livre là, pour le bicentenaire sur les 200 ans d'existence du Muséum. Donc ça, c'est un livre dont je me suis occupé en partie enfin de créer le concept et puis de gérer le contenu.
D'accord. Donc au niveau des expositions, donc en 2013, tu avais collaboré pour l'exposition Oiseaux qui s'est déroulée ici. D'ailleurs, tu nous avais fait l'honneur d'accueillir une sortie nature avec l'association Nariès, pendant laquelle on avait visité l'exposition et surtout les coulisses. Et je me souviens que
les
moments forts de cette sortie, c'est qu'on avait pu voir les tiroirs des collections 2 que vous aviez en fait pris en photo pour décorer un couloir entier pendant l'exposition.
Et nous, on les avait vus en vrai.
Et c'était assez fantastique. Est-ce que tu peux juste nous expliquer un peu comment ça s'était lancé et d'où venaient ces fameux tiroirs ?
Alors, en fait, l'exposition 2013, c'était pour le centenaire de la société Nos Oiseaux. On venait d'acquérir, peu de temps avant, 2011, une grosse collection d'œufs, donc 30 000 œufs qui avaient vendu par un particulier. Donc nous, on croyait, je vous ai expliqué qu'au musée, on est tout fiers d'être le plus grand musée de Suisse d'histoire naturelle, et on avait la plus grosse collection d'œufs, on avait 30 000 œufs ici. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui nous dit, voilà, j'aimerais vous vendre la collection de mon mari, en fait, en réalité, qui était mort. Je vais vous vendre la collection de mon mari, oh, ça arrive souvent, des gens qui nous amènent un œuf cassé, un truc, voilà. Et puis, combien vous en avez ? 30 000.
Wow, vous avez doublé votre collection.
Alors, on a doublé notre collection d'un coup. Bon, ça, c'était pas donné, hein, mais par rapport à ce que c'est, c'était donné.
Ouais.
Parce que là, il y a des œufs d'espèces disparues, d'espèces rarissimes, d'espèces où on peut même plus aller aujourd'hui, d'espèces qu'évidemment on peut pas récolter, parce qu'on peut plus récolter des œufs, Dieu merci, mais enfin, à l'époque, ça a été fait, et il faut absolument que si le travail était fait, et bien fait, c'est-à-dire que les œufs sont en excellent état, tout est référencé, on a le lieu, la date, et même les circonstances, des fois, de la collecte, et eh ben ça c'est des données qui sont absolument.
Et c'était le cas pour cette collection là
Elle était nettement meilleure que la nôtre.
Waouh.
Donc oui, on a donc ces armoires, vous avez vu, on l'a laissé dans son jus si je puis dire. Donc il y avait des armoires faites sur mesure pour cette ces fameuses armoires vitrées, enfin des tiroirs vitrés. La qualité était impeccable. On a fait donc la fameuse exposition où il y avait le couloir des œufs. Donc on a montré ces 30 000 œufs vu qu'ils ont été. C'est incroyable. Impossible de montrer les œufs dans les. C'est
non,
très difficile parce que ça roule, c'est fragile. On peut pas les. Enfin, c'est extrêmement compliqué de les montrer. Donc là, on les avait tous photographiés. On avait photographié tous les tiroirs. Il y en a à peu près 300, les 30 000 œufs. Et donc, on a pu ensuite, dans Photoshop, manipuler ces tiroirs grandeur nature. Et puis, ça faisait un couloir qui faisait 25 mètres de long,
superbe.
3 mètres de haut. Et là, même le gars qui avait collecté sa collection n'avait jamais vu ça. C'est-à-dire, on voyait toute la collection, comme ça, posée verticalement.
C'était
hyper réaliste, quoi, comme ça, avec quand même quelques vrais œufs qui étaient montrés.
Oui.
Et oui, c'est quelque chose qui avait marqué, y compris les gens qui s'intéressent un peu à l'art, parce que c'était un peu ça faisait vraiment installation artistique.
Ah oui, donc, tout à fait, voilà. Tout à fait. Ouais.
Donc c'est ça.
Incroyable.
Et donc cette collection On a fait cette exposition. On a fait un livre. Il y a un photographe animalier, un des meilleurs photographes animaliers au monde, qui s'appelle Paul Starosta, qui fait beaucoup de photographies, mais en studio, hein, donc des reptiles, des escargots, etc. Il a fait aussi les graines, des plants, des cactus, et tout, et qui est venu photographier les œufs. C'est la première fois qu'on fait un livre artistique et naturaliste sur les œufs. C'est un beau livre qui s'appelle Œufs, mais qui existe également en italien et en allemand, aux éditions 5 Continents. Donc il y a eu ça. Et puis ces œufs, ces photos d'œufs ont été exposé à Argenève.
Alors c'est sûr que depuis il y a eu évidemment de nombreuses expositions et en ce moment le muséum a lancé 3 nouvelles expositions à l'occasion du bicentenaire du muséum. Donc il y a Trésor 200 ans d'histoire naturelle à Genève, il y a Bouteille à la mer 2121 TAO Maori et il y a le fameux Wildlife Photographer of the Year. Est-ce que tu peux nous résumer les grandes lignes de ces 3 expositions?
Oui, alors donc la première que je vais mettre en premier c'est l'exposition du bicentenaire, vraiment c'est l'exposition Trésor qui est gratuite en fait. C'est à peu près 200 objets, c'est même assez exactement 200 objets, les plus beaux objets de la collection, qui sont exposés comme une espèce d'immense cabinet de curiosité, avec relativement peu d'explications, mais c'est un peu le côté wow, le côté
le
best-of du musée présenté, ça prend de la place. Il y a un tigre là-dedans pour dire, donc il y a un crâne d'éléphant, il y a des gros trucs.
Il y a des gros objets, très gros.
Pour faire honneur aussi aux petits. Donc il y a beaucoup, à savoir que l'essentiel des collections du musée c'est quand même des insectes,
bien sûr.
Des autres arthropodes qui sont minuscules et même des microfossiles, donc on vit dans le monde minuscule aussi.
Ça va être facile de sélectionner 200 parmi la quantité que vous avez.
Et donc en parallèle on a fait ce travail de recherche des plus beaux objets, on a profité de les photographier pour en faire un livre dans lequel est racontée l'histoire du muséum depuis 1820. On a pris 1820 parce que c'est la date à laquelle la ville de Genève a acquis les collections privées des savants genevois de l'époque qui donnaient des cours avec ça, mais qui n'arrivaient plus à gérer tellement il y en avait, ils ne savaient plus où les mettre, etc. La ville a dit ok, on les reprend gratuitement,
on
la gère. Donc l'autre grande exposition ici, alors qui est payante, c'est ces deux expos, c'est donc le Photographer of the Year, là les 100 plus belles photographies de l'année 2019. Donc dans des caissons d'un mètre rétroéclairés, donc il y a vraiment il y a de quoi se mettre plein les yeux. Il y a des photos d'animaux,
il y a des oiseaux,
de tout ce qu'on veut,
il y a des scènes de chasse, il y a des scènes de l'amphibien,
voilà, de toutes les régions du monde, enfin voilà, il faut voir ça, c'est les plus belles photos animalières du monde de 2019. Voilà, sur je sais plus combien il y a eu, donc beaucoup d'appelés, peu d'élus, et puis ils sont tous là. Et puis sinon c'est l'exposition de l'artiste Maori, donc il vient de Nouvelle-Zélande, Georges Nuku, et qui interroge la question du plastique dans les océans, notamment, donc les bouteilles qu'on rejette. Et lui, il crée des œuvres d'art avec du plastique, avec des bouteilles de récupération, et avec des bénévoles. Et il a fait une installation titanesque. C'est vraiment cette exposition, c'est une extension de son cerveau. Je veux dire, il est encore là en train de. On entend des meules, des fraises.
C'est lui qu'on
entend. Le vernissage, c'est dans 8 heures, et il est encore en train de bosser, il n'a pas dormi de la nuit. J'étais avec lui hier ici jusqu'à 22 heures, et ce matin il a passé la nuit là, il dort.
Autre passionné
donc,
pour
il est fou. Et alors donc cette exposition, elle mêle, alors évidemment ses créations, il y a des raies géantes, des baleines, des machins, et il inclut dans ce travail des objets ethnographiques. Donc là, on en a pour quelques millions de tous les objets ethnographiques de Nouvelle-Zélande, pratiquement les plus beaux qu'on ait en Suisse, du musée d'ethnographie de Genève, du musée des arts de Bâle, et idem aussi avec les animaux. Donc là, on a tous les oiseaux de Nouvelle-Zélande du musée de Berne, y compris des espèces disparues comme le huia, etc. Donc et c'est mis en scène dans ces sculptures en plexi et tout. C'est un personnage.
Ouais, d'accord, très
Georges Nuku.
Génial. Alors Laurent, pour terminer cette émission, est-ce qu'il y aurait une exposition que tu rêverais d'organiser au musée mais pour laquelle tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire?
Oui, j'ai plusieurs projets. Parce qu'on s'interroge tout le temps sur qu'est-ce qu'il faut raconter aux gens pour qu'ils prennent conscience. On remarque que c'est difficile. On montre des magnifiques photos. Ça peut être de destruction, de beauté, de tout ce qu'on veut. On remarque que de parler tout le temps de destruction, ça ne marche pas. Ça finit par être lassant, ça finit par être anesthésié par toutes ces informations horribles. Voilà. Donc, on veut plutôt jouer sur l'émerveillement sans être dupe que oui, bon, ça, c'est bien pas sûr. La joie. Hein. Mais donc, un projet que j'avais, c'était de faire une exposition qui s'appellerait Big. Enfin, ça, je vous le dis, c'est un scoop puisque je n'ai jamais parlé ni même à mes collègues ni à personne. Ce serait de jouer sur l'agrandissement. C'est-à-dire qu'il y a des animaux qui sont immenses et d'autres qui sont minuscules. Le problème, c'est que les minuscules, c'est souvent les plus importants du monde, mais on les voit jamais parce que justement, ils sont minuscules. Donc, il faudrait faire une exposition où on agrandit tout 100 fois, par exemple, mais y compris quelques animaux qui sont déjà grands. Donc, par exemple, vous imaginez un œil de baleine agrandi 100 fois, et puis vous auriez d'avoir
enfin
à la fois quelque chose d'énorme. Ça peut changer la manière de voir les choses. C'est-à-dire ça monte d'un cran, un monde invisible, et en même temps, ça ferait des installations titanesques.
Oui, et du coup, leur menace serait aussi agrandie, donc on pourrait voir les microplastiques qui, en fait, sont quand même conséquents pour un organisme minuscule.
Par exemple. Donc, vous voyez que les possibilités de décliner cette idée d'agrandissement, elle est assez riche.
Oui, tout à fait.
Ouais, c'est chouette comme idée.
Excellent. Génial. Alors voilà, il est maintenant temps d'écouter, comme d'habitude, le son de Benoît que vous avez eu en quiz sur les réseaux sociaux depuis vendredi passé. Donc, on l'écoute.
Il s'agissait de Bébé Balbuzard enregistré à Leipzig sur le tournage d'un film sur la réintroduction du JPEG barbu. Bravo à tous ceux qui l'ont trouvé.
Petit rappel, Narès propose cette semaine un cours de cosmétique. Ce sera jeudi, donc le 8 octobre, qui aura pour thème le soin des cheveux. N'oubliez pas de consulter notre site internet www.naries.ch pour avoir toutes les informations. Et vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter pour vous tenir informé de nos activités. Merci beaucoup Laurent d'avoir participé à cette émission et d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous et bravo pour votre travail.
Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une très bonne semaine et nous vous retrouvons lundi prochain pour un côté vadrouille qui sera cette fois-ci dans les bois de Jussy. Au revoir.